le psaume 130 à la page 720. Chant des montées. Du fond du gouffre, je fais appel à toi, Éternel. Seigneur, écoute-moi. Que tes oreilles soient attentives à mes supplications. Si tu tenais compte de nos fautes, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister ? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel de toute mon âme et je m'attends à sa promesse. Je compte sur le Seigneur plus que les gardes n'attendent le matin. Oui, plus que les gardes n'attendent le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car c'est auprès de l'Éternel que se trouve la bonté. C'est auprès de lui que se trouve une généreuse libération. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Amen.
Dans ce psaume, nous sommes dans un ensemble composé de 15 psaumes intitulés « Chant des montées ». Ces cantiques étaient probablement ceux chantés par les pèlerins lors de leur voyage vers Jérusalem pour y célébrer les fêtes. Lors des prochains dimanches, pour monter, pour rentrer dans cette année, nous regarderons à quelques-uns de ces psaumes des montées. 3 ou 4, on verra selon le planning. J'ai été interpellé, il y a quelques mois maintenant, par le titre d'un podcast que j'écoute, « Quelle place dans nos églises pour les chrétiens misérables ?» Alors, par misérable, ne voyez pas là un jugement sur les personnes, mais plutôt sur la réalité de leurs circonstances. Quelle place pour les chrétiens éprouvés, malades, persécutés, déprimés? Ces personnes peuvent-elles trouver leur place dans l'Église? Et si je pense que c'est le cas, en partie, je pense que l'un des aspects sur lesquels nos églises pourraient retravailler serait de redonner toute sa place au livre des psaumes. Les psaumes, ce sont les prières, les chants de croyants éprouvés. Ce psaume 130, c'est le chant d'un chrétien misérable. Lorsque nous sommes dans des contextes similaires, nous trouvons dans les psaumes une réponse appropriée à notre situation. Il y a une centaine d'années, les psaumes formaient l'essentiel des cantiques chantés par les chrétiens. De nos jours, c'est plutôt l'exception. Et si un bon nombre de chants modernes sont récemment redevenus riches en contenu théologique, je regrette que les psaumes ne soient pas plus souvent mis en musique. Mozart voyait la beauté de ce psaume 130 et l'a mis en musique dans son De Profundis. Martin Luther, le grand réformateur, a également mis ce psaume en musique. Je prie que les artistes contemporains remettent ce psaume en musique. Il y a une réelle dimension pédagogique dans les chants. Réelle dimension pédagogique. Peut-être certains ont entendu parler de cette hérésie du début du IVe siècle, l'arianisme, cette pensée qui tirait son existence de son fondateur, le théologien grec Arius. Nous n'allons pas ce soir regarder au contenu de cette dernière hérésie, mais à la forme dont elle s'est développée. Ce qui a permis à cette pensée de se développer très rapidement et de manière très populaire, c'est le fait qu'Arius avait pris l'habitude de mettre ses réflexions théologiques en chansons. Son auditoire retenait facilement ses cantiques et le contenu de ces derniers. Il y a une profonde dimension théologique dans le chant. Nous connaissons probablement plus de cantiques par cœur que de versets bibliques. Le but du psautier du livre des psaumes est de combiner les deux. Vérité biblique et facilité d'apprentissage. Ce psaume 130, c'est du blues. C'est du blues. Un cantique chanté du fond du gouffre. Le psalmiste y exprime sa tristesse, son désarroi, sa douleur, sa mélancolie. Mais des notes de confiance rythment aussi ce psaume. C'est du blues. Tristesse et joie, mélancolie et confiance se retrouvent ensemble dans ce psaume. Voilà ce qu'il chante. Voici ce qu'il nous faut chanter du fond de notre gouffre. Du fond du gouffre, je fais appel à toi, Éternel. Seigneur, écoute-moi. Que tes oreilles soient attentives à mes supplications. Si tu tenais compte de nos fautes, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister ? Sur des notes graves débute ce psaume. Au sein de la détresse, du fond du gouffre. L'éclat, le crescendo de la louange et de l'espérance attendront. Des notes graves. L'auteur de ce psaume commence tout simplement avec la description de la réalité qu'il expérimente au quotidien, les profondeurs de l'abîme. La vie chrétienne n'est pas une vie sans tristesse, n'est pas une vie sans épreuve. La vie chrétienne n'est pas une vie où l'on passe de triomphe en triomphe, de victoire en victoire. La santé, la richesse et le bonheur sont trois idoles de notre temps. Idoles devant lesquelles nous nous retrouvons parfois prosternés, nous aussi. Ce faux évangile dit de la prospérité est la preuve de cela. Par ce faux enseignement, il est annoncé que Dieu bénira matériellement ceux qui l'adorent. Si tu aimes Dieu, Dieu te le rendra. Si tu donnes à Dieu, il te donnera encore plus en retour. Et si tu aimes Dieu, alors si tu es malade, c'est que Dieu te punit pour quelque chose. Mais partir du principe que le christianisme, dont le cœur réside dans la souffrance et la mort du serviteur souffrant, Jésus-Christ, a pour but notre bénédiction matérielle, ne colle pas. Et ce n'est pas la promesse que Jésus formule à ses disciples. Et si ce faux enseignement nous semble peut-être bien éloigné du message biblique dans ses grandes lignes, n'a-t-il pas pour autant laissé ses marques dans notre cœur? Ne recherchons-nous pas, avant tout, le confort, l'amour, le bien-être? Ne nous trompons pas, santé, richesse et bonheur, ce sont les promesses non pas de Jésus, mais de Satan. Ce sont les promesses de Satan. Adore-moi, je te donnerai tout ce que tu veux. Dans nos vœux de début d'année, ce que je souhaite pour vous, ce n'est pas avant tout la bonne santé, même si je souhaite la bonne santé pour vous. Ce que je souhaite avant tout, c'est que nous soyons transformés toujours plus à l'image de Jésus-Christ. Et cela dans la santé ou dans la maladie. Que nous soyons transformés à l'image de Jésus-Christ. Santé, richesse et bonheur ne semblent pas être le contexte présent ici pour le psalmiste. La vie chrétienne n'est pas une vie sans tristesse. Ce n'est pas une vie sans épreuve. Du fond du gouffre, je fais appel à toi. Seigneur, écoute-moi. Que tes oreilles soient attentives à mes supplications. Du fond du gouffre. Et qui plus est, le désarroi expérimenté ici par le psalmiste vient non pas de circonstances adverses, mais de son propre cœur, de son propre péché. Il est question de faute, de péché au verset 3, du besoin de pardon au verset 4. Nous sommes loin d'un triomphalisme, je te louerai toute ma vie, mon cœur est tout à toi, je n'ai qu'un désir, vivre pour toi, ou au péché je dis non. Le psalmiste est au fond du trou à cause de son propre péché. Est-ce lié à une faute en particulier ou face à un constat plus global de son état? Nous ne pouvons savoir. Mais cette réalité est là. L'écart qui le sépare de Dieu. Si tu tenais compte de nos fautes, qui vivrait? Qui vivrait? Tu es le Dieu trois fois saint. Il n'y a en toi pas l'ombre d'un péché. Et me voilà, moi, de manière pathétique, à répéter les mêmes péchés jour après jour. Et si j'arrive à changer pendant un temps, voilà que la tentation se présente à moi et je tombe à nouveau dans le panneau. Ou alors que je me croyais faire des progrès, me voilà tombé dans un autre piège, celui de l'orgueil. Je ne fais pas le bien que je souhaite, mais au contraire, je fais le mal que je ne veux pas. Mon cœur est mauvais. Si tu tenais compte de mes fautes, de nos fautes, qui vivrait? Qui vivrait? Le psalmiste ici ne cherche pas à trouver des excuses. Il ne cherche pas à dissimuler sa faute, ni son désarroi. Il est bien loin d'une vision Instagram du monde, celui d'une apparence, mais d'une apparence hypocrite et camouflée. Non, il est au fond du gouffre et il n'a pas peur de le dire. C'est vers toi que ma plainte s'adresse. Du fond du gouffre, je fais appel à toi. C'est vers toi que je me tourne. dans ces moments de désarroi. Ce psaume nous présente ce qu'il nous faut faire. Se tourner vers Dieu. Se tourner vers Dieu. L'écart qui vous sépare de Dieu est trop grand, alors venez à lui. Ne vous éloignez pas encore plus, mais au contraire, venez à lui. Venez à lui. Matthieu nous parlait dimanche dernier de revenir à une foi simple. Pas une foi simpliste, mais une foi simple. Et je crois que c'est ce que le psalmiste nous présente ici. Il vient tout simplement à Dieu. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas d'abord d'un programme en 10 étapes sur comment dire non au péché, mais c'est avant tout de venir simplement à Dieu dans la prière. Ce genre de programme peut avoir son utilité, évidemment, mais ce sera sans réel fruit si ce n'est pas précédé et accompagné par du temps passé dans la présence de notre Père. Nous avons besoin de venir à lui. Nous avons besoin de reconnaître nos torts devant lui. Je fais appel à toi. Ce dont j'ai besoin, c'est toi. Écoute-moi, sois attentif à mes supplications. J'ai tant besoin de toi. Dieu souhaite que nous lui apportions nos épreuves, nos luttes, nos fardeaux, nos réussites comme nos échecs. Père, je suis au fond du trou. Quelle honnêteté dans ce psaume, n'est-ce pas ? Je suis au fond du trou. Si tu comptais toutes nos fautes, qui vivrait ? Qui vivrait ? Peut-être le psalmiste était-il en route vers Jérusalem pour y offrir ses sacrifices. Année après année, des sacrifices sont offerts. Ces sacrifices devant être renouvelés constamment. Si tu comptais mes fautes, quel espoir pour moi ! J'ai beau offrir des sacrifices, mon cœur reste le même. Ton pardon éternel a besoin d'être accordé encore et encore et encore, parce que mon péché est bien trop grand. Et toi, éternel, tu es parfaitement saint, tu es sans défaut. Si tu tenais compte de nos fautes, qui vivrait ? Qui vivrait. Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Alors que ces notes graves résonnent encore, voilà qu'une deuxième strophe, joyeuse, pleine d'espérance, se plaît à répondre au premier vers. Les profondeurs de la mélancolie laissent maintenant la place à une joie plus profonde encore. Le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Quelle affirmation époustouflante, n'est-ce pas ? Le pardon se trouve auprès de toi. L'auteur de ce psaume a compris le plan de Dieu. Il ne connaît pas encore les formes de ce plan, mais il a compris le fond. Il a compris que ce n'est pas par lui-même qu'il obtiendra le pardon. Il ne sera jamais assez bon, jamais assez pur, assez saint pour mériter quoi que ce soit devant Dieu. Il a essayé, il s'est retrouvé au fond du gouffre. Le psalmiste sait que par ses efforts, il ne sera jamais suffisamment bon pour mériter autre chose que la colère de Dieu. Dieu déteste le péché. Il n'y a rien de plus opposé à Dieu que le péché. À chaque fois que nous désobéissons, c'est contre Dieu que nous péchons. Jour après jour, en l'ignorant, en désobéissant. Lorsque nous mettons notre espoir ailleurs qu'en lui, nous offensons Dieu. Et cela, le psalmiste en est pleinement conscient. Nous l'avons vu, c'est la raison pour laquelle il est au fond du trou. Il se sait sous la colère de Dieu. La seule chose que le psalmiste mérite, c'est l'enfer. La colère éternelle de Dieu. Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Le pardon se trouve auprès de toi. Il comprend, et c'est là toute la majesté de ce psaume, il comprend Dieu comme étant celui qui procure le pardon. Le psalmiste ici comprend la grâce. La seule manière possible pour être sauvé, la grâce offerte par Dieu, le pardon offert par Dieu. Son péché le condamne. Ses efforts ne sont pas suffisants. Mais Dieu, par pure grâce, offre le pardon. Je ne peux rien faire pour être sauvé. Mais pourtant, par grâce, tu sauves. Le pardon, tu l'offres. Et puisque Dieu offre le pardon, son espoir, le psalmiste ne le met pas dans sa propre personne, dans ses efforts et ses mérites, mais il le met seulement en Dieu. Il s'accroche à Dieu, il s'accroche à la grâce. Versets 5 et 6, « J'espère en l'Éternel de toute mon âme et je m'attends à sa personne. Je compte sur le Seigneur plus que les gardes n'attendent le matin. » Oui, plus que les gardes n'attendent le matin. « J'espère en l'Éternel. Je m'attends à sa promesse. Celui qui peut sauver, c'est Dieu. Le seul à pouvoir sauver, c'est lui. » Son espoir, le psalmiste, ne le met pas dans sa propre personne, mais il espère en l'Éternel de tout son cœur. Je compte sur le Seigneur bien plus que les gardes n'attendent le matin. Le pardon de mes péchés, c'est Dieu seul qui peut le procurer. Celui qui peut pardonner mes fautes, c'est toi, Père. Mon espoir, c'est toi. Mon seul espoir, c'est toi. Quelle affirmation magnifique, n'est-ce pas ? C'est l'Évangile, dans toute sa gloire et dans toute sa beauté, qui résonne dans ce cantique. C'est l'Évangile qui résonne. Si le grand pasteur et évangéliste du XVIIIe siècle, John Wesley, s'est converti à l'écoute de Romains chapitre 3, il affirmera lui-même que c'est l'écoute du psaume 130, quelques heures auparavant, qui avait initié sa réflexion. Ce psaume 130 présente la grâce. Dieu qui procure le pardon à des personnes qui ne le méritent absolument pas. Comment ce pardon peut-il être offert ? Romains chapitre 3 répond à cette question. La manière dont la grâce s'est révélée, c'est en Jésus-Christ. Romains chapitre 3 versets 22 à 24, il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Ou comme il est dit un petit peu plus loin dans cet épître, Romains chapitre 6, verset 23, « Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Dieu est parfaitement saint, il est parfaitement juste. Parce qu'il est parfaitement saint, le péché, Dieu ne pouvait l'ignorer. Mais sa colère contre le péché est retombée sur Jésus-Christ. Le salaire du péché, c'est la mort, oui, et mort, il y a eu. Jésus-Christ est mort à notre place. Jésus-Christ, parce qu'il nous aime plus que nous ne pouvons l'imaginer, parce qu'il nous aime de manière inexplicable, a pris sur lui le poids de notre désobéissance. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est retombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Quelques extraits d'Ésaïe chapitre 53. La pleine compréhension du psaume 130 et de Romains chapitre 3, la compréhension de cet amour immérité de Dieu, Dieu qui offre son Fils à notre place, amena John Wesley à mettre sa foi et sa confiance en Dieu. Le seul à pouvoir sauver, le seul à pouvoir pardonner, c'est Dieu. Et voici la manière dont John Wesley décrira sa propre conversion dans son journal. À environ 21h moins un quart, pendant qu'on décrivait le changement de cœur que Dieu opère par la foi en Christ, je sentis mon cœur se réchauffer étrangement. Je sentis que j'ai eu la foi en Christ seul pour mon salut. Reçu l'assurance que mes péchés étaient ôtés, même les miens, et qu'il me sauvait de la loi du péché et de la mort. Ce psaume 130 nous parle de la grâce. Les modalités de la grâce étaient encore à venir, mais la grâce est annoncée clairement. Ce psaume annonce la manière dont le pardon sera accordé par pure grâce. C'est à la grâce que le psalmiste s'accrochait. Martin Luther, le réformateur, aimait qualifier ce psaume de psaume paulinien. Par psaume paulinien, il faut entendre psaume que l'apôtre Paul aurait pu rédiger, tant son contenu est similaire à ce que l'apôtre passera sa vie à enseigner, le salut offert par grâce en Jésus-Christ. Dans le psaume 32, le 51, le 130 et le 143 sont ceux qu'il aimait appeler les psaumes pauliniens. Ce n'est pas surprenant si Martin Luther demanda spécifiquement que ce psaume 130 soit chanté lors de ses propres obsèques. La grâce est présentée ici. Mais ce cantique ne se termine pas sur ce crescendo de la grâce, mais sur une exhortation finale. Après avoir compris l'importance de la grâce, le psalmiste invite chacun à la comprendre à son tour. Relisons les versets 7 et 8. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car c'est auprès de l'Éternel que se trouve la bonté, c'est auprès de lui que se trouve une généreuse libération. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Mets ton espoir en l'Éternel. Église de la rue de Sèvres, mets ton espoir en l'Éternel. Toi qui ne connais pas encore la joie indescriptible et inaltérable du salut, mets ton espoir en l'Éternel. Dieu est le seul à pouvoir sauver. Il est le seul à pouvoir offrir la paix. Ne cherchez pas ailleurs qu'en Dieu ce que vous ne trouverez qu'en Dieu. C'est lui qu'il nous faut suivre. C'est lui qu'il faut accepter, c'est pour lui qu'il nous faut vivre. Dieu ne nous promet pas le confort. Jamais il ne promettra une vie facile ici-bas. Ce qu'il nous promet, en revanche, c'est la vie éternelle. Une vie éternelle auprès de sa personne. Une vie sans maladie, une vie sans violence, sans mal, sans égoïsme. Une vie avec un cœur renouvelé. Une pleine et parfaite présence du Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Une relation vivante avec Dieu. C'est pour vivre cette relation que nous avons été créés. Cette relation-là est la seule qui parfaitement répondra et répond dès aujourd'hui à notre besoin. Alors en attendant ce jour, Dieu donne sa paix. Il donne son soutien. Et dans sa grâce, Dieu nous donne des frères et des sœurs pour nous soutenir mutuellement dans les moments difficiles. Ce psaume se termine sur une exhortation, une invitation à accepter la grâce dès aujourd'hui. Permettez-moi de faire de même pour chacun de nous pour l'année qui commence. Qui que tu sois, quel que soit ton passé, que ce soit pour la première fois ou pour la millième fois, mets ton espoir en l'Éternel. C'est auprès de l'Éternel que se trouve la bonté, c'est auprès de lui que se trouve le salut, c'est lui seul qui pourra nous racheter de nos fautes. Ma prière, c'est que tous nous puissions faire nôtres les paroles du cantique que Martin Luther avait rédigé d'après ce psaume 130. Je vous invite à le lire. Des lieux profonds, je crie à toi. Écoute, ô Dieu, ma plainte. Ouvre l'oreille et entends-moi, viens dissiper ma crainte. Si tu veux compter nos péchés et toutes nos iniquités, devant toi qui subsiste, qui donc pourra nous pardonner, sinon toi dans ta grâce? Tous nos efforts sont condamnés, quelque bien que l'on fasse. Devant toi qui voudrait crâner, au lieu d'humblement t'adorer et vivre de ta grâce? En Dieu seul je veux espérer, non pas en mon mérite. En Dieu mon cœur veut demeurer, son amour m'y invite. Sa parole est mon seul appui, ma foi repose tout en lui, si sûre est sa conduite. Le mal vient m'accabler de nuit, m'étreint jusqu'à l'aurore. En Dieu je trouve un sûr ami, sans douter je l'implore. Aussi, vrai peuple d'Israël, invoque ton Dieu, l'Éternel, en ton Sauveur espère. Dans l'abondance du péché, la grâce surabonde. Sa forte main vient nous sauver du prince de ce monde. Il est, lui seul, le bon berger. Pour pour délivrer de ses péchés tout Israël, son peuple. Amen.